deuxième séance de notre matinée de mercredi. Anne Brunel, merci. J'ai l'honneur de vous présenter, le très grand honneur de vous présenter Étienne Brunet, qui est sans doute le premier individu que j'ai réellement admiré par Internet. Parce que, ayant commencé à utiliser des ordinateurs et des connexions depuis le Japon, vers 93 ou 94, j'ai peu de temps après découvert les pages de Balzac, de la Comédie humaine, donc sur Internet, que j'ai commencé à utiliser. Et avant que d'autres sites littéraires soient vraiment fournis et intéressants, eh bien, il y avait déjà ça, et ça fonctionnait très bien, et ça fonctionne toujours. Donc, vraiment, je le remercie publiquement de tout ce qu'il a fait pour moi et pour beaucoup d'autres. Étienne Brunet... Comment ?
Et pour Balzac.
Pour Balzac, mais Balzac se défend quand même bien tout seul. Hein. Étienne Brunet est professeur à l'université de Nice. Il a été...
Retraité.
Voilà, alors retraité, bon, si ça ne dérange pas de le dire. C'est-à-dire que, comme les autres retraités dont on a déjà parlé, il travaille encore plus qu'avant. Je lui passe la parole pour l'exposé de diverses activités relatives à l'informatique. Sachez que Étienne Brunet parle au moins 10 langues en plus du français, qui sont les 10 langages informatiques successifs qu'il a appris dans l'histoire de l'électronique.
Ah, tu m'as fait peur, je suis monolingue.
Voilà, à toi.
Bien. Ben, je te prie de veiller à penser, à me rappeler que je dois songer, à me souvenir, de ne pas parler jusqu'à ce soir. Parce que j'ai un rendez-vous avec mes petits-enfants ce soir, je les vois une fois par an et ils viennent précisément ce soir pour m'embêter. Alors, je m'excuse à l'avance si je ne participerai pas aux séances futures, aux séances de demain et d'après-demain, puisque mes petits-enfants m'appellent. Alors, on va embrayer. Tout de suite sur un cerisier. Voilà, c'est à peu près le plan que je voudrais suivre, en commençant par une histoire d'Internet, mais faite à partir de ma propre expérience, c'est-à-dire à partir du petit bout de la lorgnette. Là, c'est l'Internet simplement qui sera en question, mais quand même à travers la réfraction d'un littéraire et d'un francophone. Ensuite, la deuxième et la troisième partie envisageront deux termes de notre colloque, c'est-à-dire Internet toujours et le français. Et puis dans la troisième partie, la dernière, je ferai intervenir enfin le troisième terme, c'est-à-dire la littérature. Ce sera donc la littérature sur Internet en français. Alors, pour... l'histoire d'Internet, le mieux serait de suggérer à l'ordinateur d'écrire ses mémoires. Ça, c'est une idée pour un romancier. Je pense que quelqu'un a dû l'avoir déjà en tête. Attendez, il serait mieux de faire un vrai panorama. Voilà, les quelques étapes que je peux dessiner à travers ma propre expérience. Ça commence en 1968, c'est le moment où l'ordinateur, il y en avait 5 qui étaient conjugués, 5 ordinateurs IBM, qui ont envoyé l'homme dans la Lune, et qui m'ont envoyé moi-même dans la sphère de l'informatique. Alors, c'était déjà un réseau. Je travaillais à ce moment-là à la Gaule, c'est le centre IBM qui était le plus important d'Europe à ce moment-là, qui est encore très important, il y a encore 1000 ingénieurs. Et à la Gaude, on m'avait laissé entrer. Je n'étais pas payé par IBM, mais je ne me payais pas. C'était un privilège extraordinaire. C'était le mécénat d'IBM, très supérieur au mécénat de Microsoft, qui existe aussi quand même. Je travaillais à la Gaude, et en réalité, les travaux que je donnais le soir, était exécuté en Californie. Et les résultats étaient rapatriés le lendemain matin. C'était pas le temps de réponse était assez long, hein. Il fallait attendre au moins un jour avant de savoir si le programme qu'on avait donné avait de bons résultats. Mais cela voulait dire qu'on travaillait, on faisait travailler les ordinateurs des deux côtés de l'Amérique, et quand la charge de jour était trop importante en Europe, elle était déportée en Amérique, puisque c'était la nuit là-bas et que la charge des ordinateurs californiens était faible. Vous voyez que le réseau fonctionnait déjà chez IBM en 68. Et vous comprenez très bien que pour envoyer les hommes dans la Lune, il fallait avoir la communication avec les gens qui étaient dans le vaisseau. Et donc c'était ça le nœud du problème. Alors, c'était donc en réalité presque aussi performant que l'Internet actuel. Alors, c'est resté dans la sphère d'IBM pendant assez longtemps. Cependant, IBM a ouvert la porte de son réseau vers les années, je ne me souviens plus exactement, mais vers les années 70, il y a eu un... Je parle sous le contrôle de Gérard Verrousse, qui lui a un peu plus... une expérience encore un peu plus ancienne. Et comme lui vient de la physique, il sait mieux que moi ce dont je parle. Et donc, il y a eu un réseau ARM. C'était un cadeau fait par IBM aux universitaires français et européens. Le E initial signifie Europe. Et j'ai pu en profiter aussi, mais c'était quasiment que le courrier électronique. Ensuite, assez vite, les nations se sont aperçues qu'il fallait avoir leur réseau national. Et la France en particulier a installé Transpac. Transpac aurait dû fonctionner à partir de 75, par là, peut-être un peu avant. Enfin, peu importe. Et avec Transpac, on avait un accès à partir du poste de travail qu'on avait, on avait un accès aux grands ordinateurs qui se trouvaient dans l'Hexagone. Il n'y avait pas beaucoup de grands ordinateurs, mais cependant, le CNRS en avait déjà au moins deux. Il y en avait un qui était à Orsay, puis il y en avait un autre qui était à Montpellier. J'ai travaillé sur celui de Montpellier. Alors on travaillait avec un logiciel qu'on appelait un logiciel terminal, et celui qui était le plus courant, qui fonctionne encore maintenant, s'appelait Telnet. Mais il y avait aussi une possibilité d'accès avec le Minitel. Bon, s'il s'agissait de courrier, eh bien c'était le commencement de Eudora. Je ne sais pas si certains se servent encore d'Eudora. Moi, je me sers encore toujours d'Eudora. Pourquoi ? Parce qu'il est moins attaqué que d'autres, que Outlook, par exemple. Outlook est fragile. Eudora ne l'est pas du tout. Il y avait d'autres choses que, par contre, on a oublié, Gopher, plus personne n'existe, ne sait ce que c'est. Et puis il y a encore FTP, le logiciel qui permet le transfert de fichiers, il existe toujours, qui s'appelle FTP ou qui s'appelle Fetch. Vous voyez que tout n'est pas détruit dans cette liste-là. Cependant, dernière étape, le web a dû son existence à des ingénieurs non américains d'ailleurs, qui étaient au CERN à Genève. Et ce sont eux qui ont entre eux, quand le CERN, c'est quand même une très grosse boîte, ils avaient entre eux des besoins de communication. Et c'est là qu'on a inventé le HTML. Alors ça s'est développé comme une traînée de poudre. À partir du moment où le HTML a été présent, eh bien, les navigateurs se sont installés, d'abord Mosaic, et puis après Netscape, après Explorer, après d'autres, Safari, il y a d'autres maintenant. Et aussi les moteurs de recherche. Alors Google n'existait pas, mais il y en avait déjà un qui était assez puissant, et c'était Lycos. Et puis après, le haut du pavé a été tenu par AltaVista, et puis maintenant, il n'y a pas de problème, c'est Google. Et dans le domaine littéraire, eh bien, on a vu Frantexte, qui existait bien avant. Frantexte existait déjà dans les années 75, était interrogeable à ce moment-là. On pouvait demander pour tel mot quels étaient les passages où le mot avait été employé. On utilisait Telnet, donc vous voyez, c'est la colonne du milieu. Mais à partir du moment où le web, c'est-à-dire le langage HTML, le code HTML était possible à ce moment-là, évidemment, on a mis Frontext sur le web. Voilà ce que je pouvais vous dire. Quant à moi, ben, je me suis installé également sur le web en 95 avec deux bases de données, une sur Balzac, dont on parlait tout à l'heure, mais également une autre sur Rabelais. Rabelais, c'est évidemment beaucoup moins considérable en texte, mais il y avait les œuvres antérieures à Rabelais et les œuvres postérieures à Rabelais, donc ça permettait de comparer. Et puis aussi, surtout, il y avait toute l'iconographie sur la période de Rabelais. Iconographie qui avait été fournie gracieusement par la bibliothèque municipale de Lyon, qui avait scanné exprès tout ce qu'on lui demandait. Quand j'ai dit on, c'est pas moi tout seul, c'est Marie-Luce de Monet qui était véritablement la grande spécialiste de Rabelais. Alors, petite histoire, à propos de Balzac, il y a un an, je reçois de la mairie de Paris une lettre comminatoire nous disant « Vous avez mis des images et que vous n'avez pas payé. » Il y avait sept ou huit images sur Balzac, que j'avais puisé à la maison de Balzac, et je n'avais pas payé les droits, puisqu'on les avait donnés. On m'avait invité à la maison de Balzac, et on m'avait donné cela. J'avais dit, bon, je vais les mettre sur Internet, bon, ne le dites pas trop. Bon, mais dix ans après, une lettre de la mairie de Paris m'intimant l'ordre de payer pour ces images-là qui étaient en trop petite définition. Vous voyez, l'incohérence, d'une part la municipalité de Paris, pointilleuse, cherchant des sous, et puis la municipalité de Lyon donnant tout ce qu'on veut. Incohérence. C'est pour parler du droit d'auteur. Le droit d'auteur existe sur les images et c'est presque plus méchant, plus féroce. Voilà pour la première. Il faut que je me presse. Hein. Alors, je passe tout de suite au deuxième sujet. Au deuxième sujet, tout de même, en vous disant que ces temps héroïques que je viens d'évoquer, il ne faut pas trop les regretter. Il ne faut pas les regretter parce que quand on allait sur Internet, on ne trouvait jamais ce qu'on voulait. Il y avait si peu de documents. On naviguait dans le silence et dans le désert. Et on souhaitait à ce moment-là, on rêvait d'autoroutes. Alors les autoroutes de l'information sont venues en amenant le bruit et la cohue. Quel pépiment inextricable dans ce gigantesque marché qu'est devenu Internet. Quel vacarme dans ce souk à l'échelle mondiale où chacun propose et vante sa marchandise. Universités, laboratoires, grandes sociétés, petites entreprises et jusqu'aux individus même, chacun arrange sa vitrine avec cette impudeur que permet la distance et l'anonymat. Un plaisantin a appelé ça Babel Web. Alors, si le web est une tour de Babel, ce n'est peut-être pas une tour de Babel. Pourquoi ? Parce que quand les tours de Babel se sont effondrées, c'est parce qu'il y a eu une dispersion des langues, une perversion de la communication. Alors que maintenant, on tend plutôt vers une unification des langues et la généralisation de l'anglais. Alors pendant un certain temps, il y avait des raisons techniques. Les Français qui avaient un clavier avec des accents avaient du mal à passer sur Internet parce que Internet ne savait pas trop quel était le code pour les accents suivant qu'on était sur un Mac ou qu'on était sur un PC. Alors il y a certains qui ne mettaient plus d'accent du tout et certains qui ont dit oh, bah, tout simplement on va abandonner le français. Et c'est vrai que sur Internet actuellement, c'est justement la transition pour passer à ce transparent nouveau. Il faut reconnaître que c'est l'anglais qui domine. Alors le problème, est-ce qu'il tend à dominer de plus en plus ou de moins en moins? Alors heureusement, j'ai des données pour cela. Il se trouve qu'en 1995, justement, à la naissance d'Internet, j'avais fait des comptages. Et par exemple, une manière d'apprécier la proportion du français par rapport à l'anglais, c'est de prendre un mot anglais et de le comparer au mot français correspondant. Par exemple, homme et man. Alors, si vous regardez sur l'ICOS actuellement, ben, y a 2 millions d'hommes contre 51 millions de man. La proportion semble être de 4%. Alors pour la femme, c'est femme, woman, 5%. Bon, pour l'instant, je ne conteste pas ces chiffres, mais je les compare à ceux que j'avais jadis. Et jadis, vous voyez qu'on n'est plus du tout dans le même ordre de grandeur, puisque l'homme n'avait que 3000 occurrences, et man, 65 000. Le rapport est de 1 000 hein, en 10 ans. Mais c'était quand même une proportion meilleure pour le français. 5,6. Quant à la femme également, elle était en meilleure position. Simplement, tout de suite, je prévois votre objection, c'est qu'on ne peut pas comparer femme et woman. Parce que quand je parle de ma femme, eh bien, j'utilise le mot femme, tandis que les Anglais ils ne diraient pas woman à ce moment-là, ils diraient wife. Donc vous voyez que ces comparaisons sont très difficiles parce qu'entre deux langues, il y a toujours une différence dans l'extension des mots. Et cet exemple de femme est tout à fait probant. Mais il n'empêche que dans les deux cas, ces chiffres sont contestables, mais la comparaison des deux peut quand même se faire. Et d'après ce qu'on voit ici, il semblerait que... qu'on ne puisse pas dire, comme on disait jadis, comme disaient les pessimistes jadis, ils disaient, oh, le français est peut-être à 5%. C'était les pessimistes qui disaient ça. Si on dit ça maintenant, c'est parce qu'on est optimiste. En réalité, c'est moins. Alors, plutôt que de prendre l'homme et la femme, qui sont très contestables, on pourrait prendre des mots témoins qui ne souffrent pas la synonymie, l'hyperonymie ou des dénominations équivalentes. Si on prend des noms propres, un nom propre finalement est obligatoire dans le contexte où on l'emploie, il n'a pas de substitut. C'est pas comme une femme qui peut se dire woman ou wife. Hein, si vous parlez de l'Italie, on peut dire la botte italienne, enfin ce sera très peu souvent. De la même façon que pour définir en France, on pourrait dire l'hexagone. Bon, donc je ferai davantage confiance aux noms géographiques. Seulement, là aussi, problème, c'est qu'ils sont plus ou moins proches de la conscience des Français. S'il s'agit d'un pays proche comme l'Italie ou l'Espagne, les Français ont davantage l'occasion d'en parler que les Américains. Mais s'il s'agit de la Chine ou du Japon, il y a moins de raisons historiques ou géographiques pour parler de ces pays-là quand on est Français. Donc là aussi, la comparaison est boiteuse. S'il s'agit d'un pays voisin, les données de Google actuelles, hein, nous sommes en juillet 2005, les données ici sont favorables s'il s'agit de l'Italie ou de l'Espagne, 4,5, mais très défavorables s'il s'agit de la Chine ou du Japon. Vous voyez, c'est toujours le rapport entre deux mots dont l'un est français et l'autre anglais. Conclusion, on ne sait pas trop comment utiliser cette méthode. Mais il y en a une autre. Il y a d'autres méthodes de calcul. Vous voyez que le calcul, c'est simple. C'est simple, un simple quotient. Hein. Vous ne parlez pas de statistiques. Hein. Ceux qui sont bouchés de statistiques peuvent quand même comprendre ça. Alors, faisons confiance à Google, puisque Google a davantage de données que les autres. Et là, on pourrait utiliser Google, une possibilité de Google qui vous donne le choix entre le web total ou bien tout simplement la réduction du web à ce qui est français ou ce qui est francophone. Hein, il y a les trois possibilités. Mais là aussi, si on prend un mot comme Paris, dont les Français vont se préoccuper davantage, eh bien, le rapport entre le web francophone et le web total sera très favorable à la France. Ce sera 20%. Eh bien, ça sera peut-être 10% si c'est la France. Ça sera 6% si c'est l'Europe. Et si c'est l'euro, 7%. Mais s'il s'agit de Chicago, ça sera plus que 0,5. Là encore, on tombe dans le même problème. L'extension, enfin, la l'intérêt inégal que ces mots-là, que ces mots géographiques peuvent représenter pour la conscience française ou les autres nations. Alors il faut donc choisir des témoins plus neutres. Et par exemple Google. On demande à Google de nous dire combien il apparaît lui-même. Alors le résultat est très flatteur pour Google puisque nous avons 225 millions de pages où il est question de Google. Et il y en a 4 millions dans le domaine francophone. Le rapport n'est pas très glorieux, 1,8. S'il s'agit d'IBM, c'est 1,7. S'il s'agit de Microsoft, c'est 1,6. Mais dira-t-on, vous venez de prendre trois sociétés américaines et peut-être que la préférence nationale exclut justement ces Américains. Alors, allons plus loin. Allons jusque dans l'alphabet. Cherchons les A, cherchons les B et les C dans les deux web, le web francophone et le web total. Eh bien, pour la lettre A, c'est 2%. Pour la lettre B, 3%. Pour la lettre C, 4,5%. Seulement, tout de suite, on tombe sur le K et le W, dont le français ne fait pas usage, ou très peu, alors que l'anglais l'utilise volontiers. Alors, il faut donc, encore une fois, refuser. Vous voyez, la statistique, elle est punible. Hein. Quoi qu'on ait comme données, on a toujours une bonne raison de refuser. Alors finalement, j'accepterai la dernière proposition, celle que vous voyez en bas de cet écran, où ce sont les chiffres eux-mêmes. Alors là, je ne vois pas pour quelle raison les Français ont une préférence particulière pour le 2 ou pour le 3 ou pour le 7, d'autant que ce ne sont pas des nombres, c'est les chiffres qui sont à l'intérieur des nombres. Et alors là, en plus, il y a unanimité. Ces chiffres-là nous donnent toujours aux environs de 3%. Alors c'est mon prix final. Hein. Vous prenez, vous ne prenez pas. Adjugez 3%. Hein. Voilà. La faible présence donc du français sur Internet et ce qui est plus grave, son recul dans le temps, même quand la France a comblé son retard en équipement informatique, ne permettent pas de grandes espérances sur le marché, dans le marché linguistique. La part du français est encore amincie si l'on considère les autres langues. Il y a 10 ans, le Japon était peu présent parce qu'il était très difficile de mettre le caractère japonais ou le caractère chinois sur Internet. Maintenant, c'est le cas. Et donc, nous n'avons fait que la comparaison avec l'anglais, mais s'il fallait faire entrer en ligne de compte le japonais, le chinois, le russe, et la part du français tomberait encore. C'est donc désespéré. Mais, attendez la suite, mais si paradoxal que cela puisse paraître, la marginalisation du français comme langue de communication ordinaire à l'échelle mondiale n'empêche pas la langue et la France, enfin la langue française et la France, de bénéficier d'un intérêt soutenu à l'étranger. De ses origines universitaires, Internet a tout de même gardé un parfum libertaire, un esprit jeune, on l'a vu ces jours derniers, et un goût des biens culturels. Et les produits français, notamment son art et sa langue, peuvent répondre à ce goût. Paris, par exemple, qui évoque au plus haut point, qui symbolise la France au plus haut point, n'a rien de perdu de son attrait, et les mentions qu'on en fait sur Internet font de Paris l'une des villes les plus citées dans le monde. Et je vais vous montrer, vous le voyez déjà, un palmarès des villes, des citations de villes sur Internet en 95. Vous voyez que les chiffres, là encore, sont dérisoires. Le premier d'entre eux, la première de ces villes, c'était Washington, avec 64 000 mentions. Mais vous voyez que les Américains, à cette époque-là, s'étaient taillé la part du lion. Paris était repoussé à la 10e place, et puis Rome beaucoup plus loin, Madrid encore beaucoup plus loin. Alors, le palmarès en 2005 n'est pas défavorable à la France. Vous voyez que Paris gagne 2 places. Bon, les 3 premières places, il y a eu une inversion de New York et de Washington, mais Londres est classé 3e. Mais Paris gagne un peu de crédit. Mais pas seulement Paris, mais Madrid, mais Rome. D'où vient ce phénomène? Eh bien, parce que ces villes ne sont pas forcément la source d'un document, web, mais ça peut être la cible. On parle de Paris, c'est pas Paris qui parle, c'est on parle de Paris. Donc c'est en tant qu'objet culturel plutôt qu'il faut considérer ces villes de la même façon que d'autres villes comme les villes historiques, comme par exemple Babylone, Persépolis ou Byzance. Si vous voyez ces mots-là dans Internet, c'est pas parce qu'il y a des gens qui travaillent à Byzance sur des ordinateurs, donc c'est parce qu'on parle de Byzance. Et cela donne une certaine plus-value aux villes historiques comme Rome, comme Jérusalem, comme Athènes ou comme Paris. Alors le nom de Paris, bien sûr, n'est qu'un symbole, un symbole un peu ambigu d'ailleurs, et un témoin confus de la présence française sur la toile. Les moteurs de recherche permettent certainement d'affiner la recherche et de recenser les sites où s'affirme cette présence. Mais il y a tant de sites qui naissent chaque jour que leur dénombrement, leur classement serait périmé dès lors que ce serait achevé. Et puis d'autres gens plus assidus que moi sont sur Internet qui pourraient faire ce travail. Afin d'échapper quand même au chauvinisme, je vais montrer un site américain, c'est celui de l'Université de New York, celui-ci, que certains... Comment ?
C'est mon site.
Ah, mais je ne savais pas, c'était nullement de la flatterie, mais je n'en savais rien. Je m'en réjouis. Je vous livrerai facilement la parole, mais je crains que ce soit un peu long de détailler tout ce que l'on dit, par exemple ici, sur la littérature de langue française en ligne. Et vous voyez que ce site-là a quand même pris la précaution et a eu le courage de mettre une note. La note, c'est la petite main rouge qui signale le meilleur. Bon, évidemment, je n'ai que le début. Hein. Ceux qui sont exclus de cette liste sont exclus parce que c'est la lettre A que vous avez ici, mais ça va beaucoup plus loin avec l'ascenseur. Et donc, il y a là, me semble-t-il, un très beau travail américain sur la langue française. Évidemment, cette présence française ne répond pas peut-être à des besoins utilitaires. Aix-Maine, me semble-t-il, a d'autres aspirations que la France polarise par elle-même, au goût du luxe, par exemple, au goût des parfums, des vins fins, des beaux châteaux comme celui-ci, de la haute couture ou de la haute cuisine comme celle qu'on nous sert. Les amateurs de haut langage se tourne ainsi volontiers vers la France, comme jadis les Romains cultivaient vers la Grèce. Ils lui savent gré de garder une langue pure, peu accueillante aux emprunts et aux réformes, et jalouse de ses subtilités, de ses conjugaisons et de ses difficultés, estimant que l'usage généralisé de l'anglais dans les affaires ne peut qu'abaisser cette langue à un rôle de truchement commerciale et à l'entraîner vers la trivialité et la déchéance. Je ne sais pas moi qui parle, je fais parler les gens qui aiment le français, enfin les Américains qui aiment. J'étais témoin, j'étais invité il n'y a pas très longtemps à l'association des Américaines des professeurs de français, et j'étais surpris de voir que dans les couloirs, même quand j'étais caché derrière un pilier, on ne me voyait pas, mais tout le monde parlait français. Il était interdit pendant 4 jours de parler français. Et il y a... Est-ce que j'ai encore du temps? J'ai la dernière partie à aborder. Mais cependant, avant de chanter les louanges de ceux qui chantent la France, je voudrais montrer avec cet exemple-là qu'il y a un appétit américain pour les biens culturels que la France peut offrir, non seulement la France, mais l'Europe. Et cela se comprend. C'est que l'Amérique n'a pas beaucoup d'histoire. Les biens culturels ne remontent guère à 200 ans en arrière. Donc, s'il faut les prendre, c'est en Europe, et en Chine bien sûr, et en Égypte, qu'il faut aller les chercher. D'où cette razzia que les Mormons ont fait sur les registres paroissiaux de nos provinces. D'où ce raid un peu manqué que Microsoft a fait sur le Louvre. D'où enfin cette OPA provisoirement manquée de Google sur les textes européens, hein, ce qu'on appelle Google Print. Et on a déjà parlé de Jean-Noël Lajeunesse, et voici la quatrième couverture de son livre que Henri vous a montré tout à l'heure. Bon, ce n'est donc pas la peine de lire ça intégralement. Ce que vous voyez là, c'est un essai que j'ai fait il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours seulement, pour voir si Google Print était déjà opérationnel. Il l'est. On peut interroger Google Print. Mais si vous regardez ce que j'ai mis en haut, c'était le mot que j'avais demandé, c'était un mot normand. C'était peut-être le personnage, je suis méchant là, le personnage le plus célèbre de la Normandie, c'est-à-dire le pharmacien Homais, qui se trouve bien sûr dans Madame Bovary. Et ce nom propre a été lancé dans Google Print, et je voulais savoir ce qu'on dirait de Monsieur Homais dans Google Print. Et tout ce que j'ai obtenu, c'était des documents anglais, sauf un qui est quand même français. Mais quand même, ce que j'attendais d'abord, c'était le texte de Flaubert, et non, le texte de Flaubert n'apparaissait pas. D'où, évidemment, je peux pas dire que c'est un échec, ce n'est qu'un échec provisoire, c'est parce que Google Print n'a pas encore ingurgité ces 5 milliards de pages qu'il veut nous offrir. En tout cas, le texte de Madame Bovary n'y est pas. Bon, est-ce qu'il y sera, je n'en sais rien. Je ne sais pas si je le souhaite. Simplement, j'applaudis au moins cette tentative dans les effets qu'elle peut avoir. La BNF avait mis l'accent sur les documents images. Or, ce sont ceux que j'aime le moins, sauf évidemment qu'on apprécie d'avoir l'original devant les yeux, surtout quand on ne peut pas véritablement l'atteindre autrement. Mais voyez que les documents en mode image sont lourds. Ils sont lourds à stocker, ils sont lourds à transmettre. Et surtout, ils sont rebelles à l'indexation. Sauf à imaginer, comme dans le DVD de Henri, un double système qu'on pourrait améliorer, mais qui quand même va alourdir le système. Le mieux serait probablement tout de même de transformer tous ces textes-là en des textes, en de vrais textes qu'on puisse interroger. Et en tout cas, c'était le projet de Google Print. Ils voulaient tout scanner et ensuite transformer en texte avec une lecture optique perfectionnée. L'effet que j'attends de cela, c'est que ça va obliger la BN et peut-être les autres bibliothèques européennes à aller dans ce sens-là, à demander que tous ces textes ne soient pas seulement en mode image. Alors, j'aborde ma troisième partie en disant tout de même que la BN a des textes qui sont en mode texte, il y en a 1500. En réalité, si on regarde bien, ces 1500 sont presque tous venus de Frantexte. On a dit que Frantexte était un concorde littéraire. Parce qu'on veut dire par là que ça coûtait beaucoup d'argent, c'était une œuvre de prestige. Mais moi, je pense que si on faisait un jour la Big Ben, Ben, ça veut dire la Bibliothèque Européenne Numérique. C'est moi qui propose cette appellation-là. Si on constituait la Big Ben, eh bien, ce serait une sorte d'Airbus, hein, à la dimension européenne. Et si l'on peut condamner le Concorde, on ne peut pas condamner Airbus. D'ailleurs, il y a une filiation entre le Concorde et l'Airbus, de la même façon qu'il y a une filiation entre Frontex et cette Big Ben. En tout cas, sans attendre que cela existe, je suis un peu sceptique. J'ai lu quand même un document que vous n'avez pas lu parce qu'il était local, c'était un journaliste matin, juste avant mon départ, une déclaration du ministre de la Culture française. Une déclaration de la culture française, oui, c'est-à-dire Donadieu de Vabre, qui disait, il était en vacances en Corse, qui disait qu'il avait reçu mission du président de la République d'installer cette fameuse bibliothèque européenne numérique. Donc apparemment, parmi les Européens, c'est lui qui en aurait la charge et le pilotage. Du moins, c'est ce qu'il disait. Maintenant, je ne suis pas très sûr que la France actuellement, après le vote qu'elle a fait il n'y a pas longtemps, soit en mesure d'avoir des initiatives très, très marquées. On verra bien. En tout cas, Frontex existe. Et je crois bien que c'est dans des banques textuelles, l'une des premières certainement, mais l'une des, aussi des plus homogènes. Car ce sont surtout des textes littéraires, et ce n'est pas un fourre-tout comme par exemple les archives d'Oxford où les gens qui travaillaient sur la langue anglaise avaient, après avoir fait leur thèse, avaient donné leurs données à Oxford et puis ça faisait un gros tas. On appelait ça, ils n'ont pas osé appeler ça une base textuelle, ils ont appelé ça archive parce que ça n'avait pas été pensé avant, ça a été le résultat de donations successives, alors que Frontex a été pensé. On a choisi mal ou bien, je n'en sais rien, on peut discuter. Il y a beaucoup trop de Claudel et pas assez de Sartre, par exemple. On pourrait discuter, mais en tout cas, ça a été volontairement dirigé vers un but. Et ça donne un gros tas tout mal ordonné de textes qui permettent des explorations dans le temps, dans les genres, dans la distinction des auteurs. Alors, je voudrais vous montrer justement comment on peut exploiter Frontex. Pas besoin de mon logiciel s'il s'agit de recherche purement documentaire, cette base de données a aussi des informations statistiques, et l'ennui c'est que les statistiques ne sont pas dans le domaine familier des littéraires et souvent ils ne savent pas qu'en faire. Alors c'est pour ça que j'ai proposé ce logiciel qu'on appelle TIFF. Je voulais dire par là que c'était un emprunt et presque un vol des données de Frontex, et ça se traduit par Tools for Helping Integration of Frontex. En réalité, ça exploite les données de français de deux façons différentes. Soit en différé parce que les données ont déjà été pompées sur Frontex et sont déjà sur le CD-ROM ou sur le CD-ROM ou sur le disque dur. C'est tout ce que vous voyez en haut, toutes les possibilités qui sont en haut, en horizontal, tous les boutons qui sont en haut. Et puis il y a aussi, pour ceux qui n'apprécient pas qu'on ait fait le travail pour eux avant et qui veulent faire eux-mêmes le choix des données, eh bien, il y a tout ce qui se fait à gauche, sur la partie verticale, et cela se fait avec les données qu'on va puiser en direct sur Frontex. Alors, normalement, je devrais aller sur Frontex tout de suite, hein, je devrais brancher, simplement, il y a eu un obstacle, c'est que Frontex n'est accessible que par abonnement. Et cette maison Cerisy n'est pas encore abonnée. On pourrait se cotiser pour qu'elle s'abonne, mais c'est trop tard. C'est trop tard. Il faut, l'administration est assez longue à réagir, donc c'est trop tard. Et j'ai réussi il y a deux jours, hein, par des voies détournées, à aller sur Frontex. Hier soir, j'ai encore réussi à y aller. Et puis tout à l'heure, comme ça, comme pour de Jean-Cœur, c'est pareil. Hein, quand on a besoin d'internet, ça ne marche jamais. Hein. Et actuellement ça ne marche pas, mais ça ne fait rien, j'ai prévu les choses. j'ai prévu que ça ne marcherait pas, et je vais donc faire comme si ça marchait. Alors, essayons par exemple d'utiliser dans TIFF les données qui sont déjà présentes. Ça, je pourrais le faire en direct, hein, ça, puisque c'est sur la... Et par exemple, on peut lui demander, voulez-vous essayer de voir, dans toutes les époques, il y en a 12 qui ont été distinguées, suivant les siècles, 2 ou 3 par siècle, voulez-vous me dire si à travers les mots qui sont employés dans chacune de ces tranches chronologiques, si on peut voir celles qui se ressemblent. Et vous devinez assez bien que celles qui se ressemblent, ce sont celles qui sont proches dans la chronologie. Que le 16e siècle sera probablement proche du 17e, le 17e du 18e, le 18e du 19e, et les deux extrêmes, 16e et 20e, vont probablement être les plus éloignés, puisque tout simplement la langue a changé, mais pas seulement la langue, les mentalités ont changé et les mots ont changé. Vous le voyez d'ailleurs pour ceux qui sont attentifs, par exemple à la première ligne, la distance de 1550 à 1650, la distance lexicale, il faut comprendre. Elle est de, bon, vous voyez, 11 après 13, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 45. Vous voyez, même la lecture, sans reporter ça sur aucun graphe, même la lecture montre que l'époque 1550 est très éloignée et s'éloigne de plus en plus jusqu'à l'extrême du 1960. Évidemment, si on projette ça sur un graphe, c'est beaucoup plus évident. C'est toutes les distances. Hein. J'ai déjà expliqué pour ceux qui étaient là il y a 3 ou 4 jours, le soir, comment cette analyse arborée, c'est une analyse arborée ici, tient compte de toutes les distances de chacune des époques avec toutes les autres. Et là, c'est le résultat final. Vous voyez bien la chaîne chronologique qui se déploie de façon tout à fait logique, de 1550 jusqu'à 1960. Bon, c'est un résultat attendu aussi. Si j'avais eu un autre résultat, je me serais beaucoup demandé sur la valeur de mon logiciel. Celui-ci est moins attendu. Ce sont encore des données que j'ai pompées dans Frontexte. Cette fois-ci, en faisant 70... interrogation en disant je m'intéresse à 70 écrivains et je fais donc 70 interrogations en demandant donnez-moi le vocabulaire de cet écrivain, tout le vocabulaire de cet écrivain. Donc il me faut un certain temps pour faire ça, mettons une demi-journée, et ensuite j'ai donc sur mon disque dur tout le vocabulaire de combien il y en a, je crois qu'il doit y en avoir 70 écrivains, et avec cette base de données on peut demander, à travers le vocabulaire de chaque écrivain, est-il semblable à tel autre écrivain ? Et vous avez des yeux interrogateurs, vous ne me regardez pas, vous essayez de comprendre ça. Ben, justement, tu n'as pas la petite baguette là, où elle est quelque part ? Bon, ça fait rien, je vais prendre mon stylet là. Bon, ben je vais faire ça. Alors, là-dedans, parmi tous ces différents... Oui, c'est encore plus rapide que mon... Parmi tous ces facteurs qui différencient les écrivains, un écrivain peut se différencier d'un autre parce qu'il n'est pas de la même époque. Il peut se différencier parce qu'il ne cultive pas le même genre. Si c'est un romancier, un homme de théâtre, il y a des chances qu'il soit opposé. Et puis, il y a aussi les écoles. Un réaliste, un adepte du roman réaliste n'est pas forcément semblable à quelqu'un même de la même époque qui suivrait la mouvance romantique. Alors, comment ça se distribue ces écrivains? Ça serait très clair si chacun de ces écrivains avait cultivé un seul genre. Malheureusement, il y a certains, par exemple des gens comme Hugo, ils ont cultivé plusieurs genres. Et là, ça leur donne une position intermédiaire qui n'est pas toujours très claire. Mais, tout de même, ce qui me semble le plus important dans la distinction des auteurs, c'est le genre. Tous ceux qui sont ici ont écrit pratiquement uniquement en vers, hein, que ce soit Chénier, que ce soit Le Comte de Lille du 18e, Rimbaud, Verlaine, La Fontaine, à parler contre quand même, eh bien, ce sont des gens quelle que soit l'époque, Apollinaire, quelle que soit l'époque, ils écrivaient en vers, et cela suffit pour les distinguer de tous les autres, quelle que soit leur école, quelle que soit leur époque. Le genre me semble donc prédominant. De la même façon ici, vous avez le théâtre. Le théâtre ici réunit Corneille, Racine, Molière, Marivaux, Beaumarchais, et même Musset. Mais Musset est ambigu parce qu'il a écrit aussi un roman, il a écrit du théâtre, surtout du théâtre, mais il a écrit aussi des poésies, donc Musset est un peu ambigu. Et puis Claudel l'est aussi, mais il a fait du théâtre. Donc le genre me semble le facteur numéro un. Alors, ensuite, on peut se demander si ce ne serait pas plutôt l'époque. Regardez ici, il y a une espèce de coupure entre ce qui se passe ici, indépendamment des vers. Là, tout ce que vous voyez ici, ce sont des essais du 18e ou des romans du 18e. Mais là encore, cette fois-ci, il y a un embranchement où le genre détermine d'un côté ce qui est réflexion et ce qui est fiction. Fiction ou récit, parce que Madame de Sévigné, est-ce que c'est de la fiction? Pas vraiment, mais c'est du récit. Et tous ceux qui sont là, ce sont des romanciers ou des mémorialistes. Vous voyez comme c'est assez sensible à l'époque, c'est sensible au genre littéraire, et puis c'est sensible aussi aux écoles. Et là, nous avons bien ici du roman, et là aussi du roman, mais ce ne sont pas les mêmes gens. Ceux que vous voyez ici sont plutôt adeptes du roman psychologique, comme Stendhal, comme Balzac, comme Proust. Vous voyez les époques qui ne sont pas les mêmes, comme ils ont, d'ailleurs dans d'autres études que j'ai faites, je vois toujours Proust s'en aller vers le 18e et vers les romanciers antérieurs à Zola, et toujours très opposés à Zola. Au contraire, ici, vous avez plutôt le genre réaliste avec Zola et Maupassant comme tête de film, mais vous avez aussi Martin Duguerre, Marcel Aimé, Baudet. C'est plus difficile pour Céline, et c'est évidemment plus difficile pour ça qu'à Giraudoux, parce qu'ils ont fait du théâtre, ils ont fait du roman. Donc vous pouvez nous dire, de Flaubert, il devrait être là-bas, Flaubert. Pourquoi est-il ici? Ben oui, parce qu'il y a la correspondance qui est là. Et il y a deux Flaubert, comme il y a Yvan Leclerc qui est ici et que nous saluons, et qui vient d'arriver. Yvan Leclerc vous parlera de Flaubert et surtout de Madame Bovary, je crois. Mais il reconnaît avec moi qu'il y a deux Flaubert, celui de la correspondance, tempérament, et puis celui des romans qui, au contraire, a les coudes serrés et qui ne dit pas n'importe quoi. Bon, pourquoi je cisse là-dessus pour les quatre transparents parmi d'autres, et c'est hors de mon sujet en plus. Si on garde également ce que j'ai déjà pompé, mais on peut faire beaucoup de choses avec ce qui a été pompé. L'embêtant, c'est que je l'ai pompé il y a 4 ans, en 99. Et maintenant, c'est déjà un peu dépassé. On peut avoir d'autres textes. Mais si on fait confiance à ce qui était... Ça faisait quand même ici, là nous avons 117 millions de mots. Pourquoi 117 et pas 200 millions? Maintenant, on est à 220 millions. C'est parce que je vais éliminer tout ce qui était les essais non littéraires, c'est-à-dire tout ce qui est technique, j'avais laissé ça de côté, de façon à rendre les choses encore plus homogènes qu'à l'origine. Alors ici, c'est la dernière tranche. Qu'est-ce qui est spécifique dans la 12e tranche, c'est-à-dire ça doit commencer en 1960, par rapport à tout ce qui précède? Eh bien, c'est pas flatteur pour notre littérature actuelle. J'espère qu'il n'y a pas d'écrivain parmi vous. Parce que les mots qui sont ici en tête commencent par le mot de Cambronne. Et puis, il y en a d'autres que je n'ose même pas dire. Mec, mémé, flic, libération, c'est à cause de l'histoire. Téléphone, gueule, ouais, truc, type, télé, manivelle, flic, fric. Truc. Vous voyez les mots qui sont caractérisés de notre époque. Évidemment, on le sent très bien que vous ne pouvez pas trouver ça sur Racine, aucun de ces mots-là. Mais il y a quand même un petit artefact. C'est parce que les données de Frontexte, à l'origine, et ça s'arrête, je crois, en 68, les données de Frontexte, à l'origine, c'était le langage soutenu. Pour faire un dictionnaire du bon français. Et puis, à partir du moment où le TLF a été achevé, ce n'était plus l'objectif. L'objectif allait... c'est fini. Combien ? 5 ?
10.
Oh, c'est 10, ça va. L'objectif n'était plus d'avoir le langage soutenu, donc on a pris ce qui était le plus représentatif. Alors évidemment, le nouveau roman est venu, mais pas que le nouveau roman, bien d'autre chose encore, les romans à succès. On n'avait plus tellement l'obligation de choisir le beau langage. Alors je vais me presser en allant cette fois-ci directement, ça c'est l'autre face de TIF, la face verticale, c'est-à-dire que fait-on quand on interroge Frontex maintenant, sans utiliser les données que j'ai prises il y a 4 ans. Alors on entre dans Frontex. Bon, normalement je devrais appuyer sur entrer dans Frontex, mais comme ça ne répond pas, je fais comme si ça répondait, donc je l'ai fait en différé. Voilà, vous l'avez peut-être tous pratiqué, comment on a le premier menu de Frontex où il s'agit d'abord de choisir son corpus. Ici, je le sais par date, par titre, par genre, ou par le croisement de ces critères. C'est vraiment très, très bien fait, ça. Ensuite, une fois qu'on a choisi ici, par exemple, je n'ai pas choisi l'auteur, je n'ai pas choisi de titre, pas choisi de date, mais par contre, j'ai éliminé tout ce qui était traité et essai. Vous voyez très bien ici comment s'est fait la sélection. Ensuite, le menu général de Frontex vous demande de choisir ce que vous voulez faire. Généralement, c'est la deuxième, ici le deuxième paragraphe qui compte. On lance une recherche, c'est-à-dire on cherche un mot. C'est ça. Alors, 90% des cas, c'est ça ce que l'on fait. Ce que je vous propose de faire, c'est d'aller plus loin dans les propositions et d'aller du côté des calculs de fréquence. Alors, il y a là ces possibilités-là. Par exemple, on choisit un texte. Il ne faut pas choisir tout Frontex, mais vous choisissez un texte et vous demandez tout le vocabulaire de ce texte-là. Et vous avez ça en quelques secondes. Non seulement le vocabulaire, mais le vocabulaire avec, pour chacun des mots, la fréquence. Ou bien, vous avez une liste de mots et vous voulez savoir la fréquence de tous ces mots-là dans le corpus que vous avez choisi. Après, vous changez le corpus, vous gardez la même liste, et vous pouvez donc comparer un auteur à un autre, ou un texte à un autre, avec les mêmes mots. Et ça fait un tableau à deux dimensions dans ces cas-là. Troisièmement, vous vous intéressez à un mot ou à une liste de mots, et vous voulez savoir comment ça évolue à travers le temps, ou comment ça évolue à travers les auteurs, ou comment ça évolue à travers les textes. Troisième possibilité. Enfin, quatrième, qui est ici en bas, vous choisissez un mot ou une liste de mots. Une liste de mots qui représente tout de même une constellation lexique à l'anthème, par exemple. Et après, vous lancez ça et vous demandez quels sont les mots qui s'accoquinent avec celui-là. Quels sont les mots qui sont dans le voisinage, qui sont dans la même phrase. Et on compte tous les mots qui sont dans les phrases où le mot pôle se trouve. Et puis ça donne une espèce de liste préférentielle où les mots qui constituent le thème ont une fréquence déterminée. Je vais vous montrer ça. Peut-être que c'est abstrait pour l'instant, mais allons-y. Bon, ça c'est ce que je viens de vous dire. Et par exemple, demandons dans Frontex le mot Normandie. On devine que ce n'est pas un mot très fréquent, mais enfin, on suppose tout de même qu'il doit y avoir des milliers d'occurrences. Et parmi les possibilités, je choisis qu'on me livre le résultat par tranche de temps, et par tranche de 30 ans, en demandant tout de même que les résultats soient triés par ordre chronologique. Allons-y. Voilà le résultat. Il me donne cette sorte de graphe pour me dire où c'était très en faveur au XVIe siècle, la Normandie. 1530, 1559. Et puis, il y a eu une résurgence au début du 19e siècle. Le seul ennui ici, c'est que c'est de la statistique un peu trompeuse. Les petits bâtons que vous voyez là sont proportionnels à la fréquence relative. Mais la fréquence relative, elle est douteuse dans certains cas quand les effectifs sont faibles. Imaginez quelqu'un qui joue au dé et qui joue deux fois. Et aux deux fois, il obtient ce qu'il veut. Hein, pile ou face, par exemple, deux fois pile. Et il dit triomphant, je gagne à tous les coups. 100%. C'est ça la fréquence relative, 100%. Et s'il fait ça 1000 fois, il n'obtiendra pas 100%. Malheureusement, les fréquences relatives ont ce handicap, on ne peut pas leur faire confiance. Et c'est pour ça que mon logiciel est intervenu, pour prendre les fréquences relatives, en déduire, vous voyez, ici c'est marqué, la taille d'une tranche est le quotient de la fréquence absolue par la fréquence relative, multiplié bien sûr par 1 million. Ayant après obtenu à partir de fréquences relatives la taille de chacun des sous-ensembles, à ce moment-là, je peux faire le vrai calcul, qui est le calcul soit de l'écart réduit, soit de l'hypergéométrique, mais je ne veux pas me lancer dans ces développements-là, mais des calculs scientifiques auxquels on peut faire confiance. Ils ne sont pas trompeurs comme la fréquence relative. Alors voici le graphique que fournitif à partir des données, plutôt du résultat que Frantec donne, et qui sont contestables, vous le disais-je, mais cette fois-ci n'est plus contestable. Là, c'est le véritable écart réduit auquel on peut faire confiance, et qui montre qu'effectivement, tout à l'heure, on ne voyait pas apparaître la spécificité de cette époque 1830. C'est l'époque de Flaubert et compagnie, et ça commence en 30, et puis il y a Maupassant qui vient par là aussi. Donc la Normandie s'est trouvée tout à fait à la pointe de l'actualité littéraire à ce moment-là. Et bien là, ça se voit beaucoup mieux. Demandons également à Frantec le mot Normandie, mais cette fois-ci on demande quels sont les auteurs qui parlent de la Normandie. Et bien vous voyez, ça donne ça. Il y a Bergeat, bien sûr. Ben, il y a Flaubert, on s'y attendait, et il y a Maupassant, et puis les autres sont moins évidents, Gide bien sûr, mais standard, je ne m'attendais pas beaucoup ça. Mais je ne connais pas véritablement tout le stade. Alors, troisième, ça c'est la troisième, j'ai fait déjà deux essais, la chronologie sur un mot, la répartition par auteur sur un mot, le mot Normandie, maintenant, choisissons un mot, par exemple la ville de Caen, et essayons de voir toutes les phrases où dans la littérature française on a évoqué et nommé la ville de Caen. Alors ça va donner quoi? Ce que vous allez voir ici, évidemment les effectifs sont faibles, hein. On a cité Caen que 322 fois. Bon, c'est des tout petits effectifs, mais c'est des surprenants. On ne parle de Caen que pour les tripes à la botte de Caen. Vous voyez que le deuxième mot après Caen, qui est là par définition, mais c'est le mot trip, et puis vous avez la mode qui est un peu plus loin, je ne sais pas où elle est. Elle est quelque part ici, la mode. Ah bon, voilà, elle est là. Vous voyez la mode? Bon, vous allez me dire, si c'est pour trouver ça. Bon, mais ce n'est qu'un exemple, évidemment. Il y a des mots plus chargés de substance qu'il faudrait choisir pour obtenir des résultats qui soient plus convaincants. C'était un peu pour vous faire rire et que j'ai choisi celui-ci. Si vous voulez voir un autre mot, tenez, je vais prendre un autre mot quand même. Moins. Pourquoi ça ne vient pas? Là. Pourtant, je suis bien dedans. Ah oui, excusez-moi, illusion. Je croyais être dans mon logiciel, alors que je suis dans une image seulement. Bon. Je me demandais pourquoi je n'ai pas. Je n'ai plus que 5 minutes, je crois. 2 minutes?
5
minutes. Ouais, tu es gentil. Tu as triché. Quatrième façon de faire. Je demande à la machine, plutôt à Frantec, de me livrer tout le vocabulaire de Emma Bovary, de Madame Bovary. Et bien voilà le résultat. On me dit qu'Emma a été employée 425 fois dans tout le grand texte, parce qu'il y a des allusions, il y a d'autres personnages qui s'appellent Emma, mais il y en a 372 uniquement dans Madame Bovary. Évidemment, le rapport est extrêmement favorable. Et donc, il y a un écart réduit monstrueux. Et après, justement, vient en deuxième position M. Homais, qui d'ailleurs ne devrait se trouver que dans Madame Bovary, mais on le cite également dans d'autres passages qui évoquent justement Flaubert. Et puis Bovary, bien sûr. Et puis le pharmacien, l'apothicaire. Bon, il y a des noms propres, bien sûr, qui sont évidents, qui vont venir en tête. Mais il y a d'autres mots qui ne sont pas des noms propres. Et quelquefois même des mots grammaticaux. La troisième personne vient là parce que, évidemment, c'est écrit à la troisième personne. Il y a des imparfaits, le fameux imparfait que Proust commentait chez l'imparfait cruel, disait-il, en parlant de Flaubert, de l'imparfait chez Flaubert. Bon, moi, je ne vais pas faire un commentaire littéraire là-dessus, mais à partir de là, on peut travailler. On peut travailler sur les spécificités du style de Flaubert dans Madame Bovary. Voici un autre exemple de Julien Gras qui faisait l'objet d'un autre colloque il y a peut-être 5 ou 6 ans, ici même à Cerisy. Certains s'en souviennent peut-être. Et ça, c'était un texte d'un ouvrage assez étroit qu'il appelle Les eaux étroites. Ça fait peut-être 100 pages. Et c'est question d'une promenade au bord d'une rivière natale, qui d'ailleurs est la mienne aussi. Nous avons, Gras et moi, la même rivière natale, qui s'appelle l'Èvre. Et vous voyez bien que c'est presque le résumé de cette promenade en barque, dans le souvenir également, dans les collines environnantes. Hein, tous les mots sont des mots aquatiques ici. Donc, avec la spécificité, c'est tout simplement un calcul de proportion, on fait émerger ce qui est probablement significatif d'un texte. En tout cas, là, c'est très net. Et là, j'ai enlevé les noms propres. De toute façon, il n'y en a pas. Essayons la dernière. Ça, c'est vraiment la fin. Ça. Essayons la dernière démarche. Où j'ai toute une liste. J'invente une liste. Je propose une liste. Et puis, successivement, j'ai dit, donnez-moi cette liste-là chez Rousseau, donnez-moi chez Voltaire, chez Chateaubriand, chez Vigny, Lamartine, Stendhal. Bon, vous voyez en haut les différents auteurs que j'ai choisis, le dernier étant Gracq. Alors, une fois qu'on a ça, bon, ça s'est transformé immédiatement en écart réduit. Vous voyez, en nombres qui sont négatifs ou positifs, et qui indique un excédent ou un déficit. Par exemple, pour l'âme, chez Rousseau, vous avez 2,7, c'est-à-dire que Rousseau est favorable à l'âme, il utilise l'âme assez souvent, mais que Voltaire, il n'a jamais vu l'âme, ça n'intéresse pas beaucoup, hein, moins 6. Hein. Vous voyez, hein, entre ces deux auteurs, on voit qu'ils sont à la même époque, ils parlent des mêmes choses, mais vous voyez, ils n'ont pas le même vocabulaire. Alors, supposons que je demande, donnez-moi la courbe du mot âme. Il suffirait d'appuyer sur âme et on obtiendrait ça. C'est-à-dire ceux que vous voyez en rose sont ceux qui ont vu l'âme et ceux qui sont en bleu, ils ne l'ont jamais vu. Ou l'ont vu rarement. Alors vous voyez que très bien, il y a des gens comme le Martin Vigny, ça c'est le romantisme, l'âme était... et avec les pré-romantiques comme Rousseau, ça se passe aussi. Et puis l'âme survit également dans le catholique Claudel. Si l'on prend un mot assez semblable, c'est celui de l'esprit. Ah, c'est pas pareil. Hein. Vous avez l'esprit voltairien qui vient en tête, là-bas, et le XVIIIe siècle, Chateaubriand compris. Et puis Stendhal est intéressé, mais alors que Proust n'était pas du tout du côté de l'âme, mais il est du côté de l'esprit, là. Et c'est la même chose pour Gracq, tandis que Claudel, non, Claudel préférait l'âme, sincèrement. Bon, et naturellement, vous pouvez faire une courbe pour chacun de ces mots-là, mais inversement, on peut prendre un auteur, une colonne, et dites-moi, lui dire, faites-moi la tranche, la coupe de tous les mots pour cet auteur. Alors, c'est le mot Gilgite que je prends ici. Alors, vous savez que Rousseau était aussi un compositeur. Eh bien, la musique est évidemment au premier plan. Là, vous avez tous lu La Recherche et Vinteuil, la fameuse sonate de Vinteuil, ben, elle est là, elle est dans Proust. Et puis Claudel aussi, Claudel qui disait, vous connaissez la cantate à trois voix, et Claudel disait, c'est une citation que j'aime bien citer, Si quelqu'un chante, c'est en chantant moi-même que je l'écoute. Et donc c'était aussi quelqu'un qui avait une oreille fine, et ça se voit aussi même dans sa prose. Voilà, je finis en mettant ensemble tous ces mots-là et en demandant à l'analyse arborée, est-ce que vous pouvez voir clair dans tous ces mots-là? Est-ce que vous pouvez les assembler les uns aux autres? Alors voilà ce qu'il me répond. Et il me répond, oh oui, je vois quelque chose de très commun dans tous les mots que j'ai entourés ici dans cet ovale. L'âme, le cœur, l'amour, ça va ensemble, même avec l'esprit, je suis un peu plus détaché, avec le sentiment, avec l'art, avec l'ennui, la haine, l'inconscience, tout ça, ça fait une branche. Ici, nous avons une autre branche où les armées sont faites de soldats et vont généralement à la mort, et quelquefois à la victoire et à la gloire. Bon, ça, vous regardez un verre militaire. Et puis, je vois du Proust derrière, la tristesse, le chagrin, la souffrance, et peut-être aussi les questions d'heures, de minutes, de semaines, le temps. La recherche du temps perdu se termine par le mot temps. J'ai encore du temps, oui. Et puis, vous avez le gros ventre, là. Le gros ventre, ces eaux-là. C'est les auteurs. Mais surtout Zola, qui n'apprécie guère que le corps humain, non pas les manifestations psychologiques, mais simplement le corps humain, la tête, le ventre, bien sûr, la main, le nez, ou bien le milieu proche, le lit, la porte, la table, l'armoire, ou bien encore les activités comme le repas qui nous attend dans une seconde, là, bientôt. Alors, vous voyez que les mots ne sont pas distribués tout à fait n'importe comment. Autre analyse, l'analyse factorielle de ces mots-là. Vous voyez bien que c'est Zola qui est responsable de ce naturalisme si favorable au milieu, hein, que ce soit la table, la porte, le ventre, le nez, le lit. Mais c'est lui qui est très excentrique. Et puis du côté militaire, eh bien, il se trouvait, il y avait de l'histoire de Voltaire, Chateaubriand aussi avait beaucoup parlé d'événements militaires, et donc c'est eux qui sont responsables des quelques mots militaires qu'on voyait tout à l'heure. Et puis le Proust dont je vous parlais, ben lui, il attire à lui des mots comme souffrance, chagrin, ennui, tristesse. Il y en a un autre que j'aurais pu mettre, le mot jalousie, ça c'est vraiment le mot proustien par excellence. Et puis là, vous avez un magma des auteurs qui sont sensibles à la description psychologique de l'âme humaine. Et là, vous avez Rousseau, vous avez Lamartine, vous avez Stendhal. Quant aux poètes, ils n'ont pas su se reconnaître là-dedans. Il aurait fallu qu'il y ait le ciel, qu'il y ait le vent, l'eau, il aurait fallu les éléments de la nature, et là, ils auraient reconnu les mots, tandis que ceux-là n'étaient pas tout à fait bien choisis, donc ils sont neutres, ils n'ont rien dit, ils se mettent au milieu. Je m'arrête là, parce que j'aurais voulu vous expliquer mon dernier de temps en temps, derrière, il n'y a rien, c'est vrai. J'aurais voulu revenir à mon thème de départ, c'est-à-dire à la géographie, puisque vous vous souvenez, je comparais l'Italie, l'Espagne, etc. Tout mon exposé portait jusqu'ici sur les noms propres et les noms géographiques. Et là, j'avais essayé, toujours avec l'interrogation de Frantex, de voir comment la vision du monde changeait à travers les écrivains. Et je sais pas aussi. Alors, il y avait une trentaine d'écrivains. Et 150 noms géographiques, des noms de pays ou des noms de villes. Alors, pour vous, c'est un brouillard absolu, hein. Mais si vous aviez un peu de temps pour examiner chacune des configurations, vous verriez que ce n'est pas tout à fait le hasard. Regardez, en bas, ici, par ici. Attendez, je vais prendre un pencil. Vous voyez, l'Arabie, Damas, la Syrie, la Perse, le Nil, mais c'est probablement l'Asie mineure, le Liban, Alexandrie, la Turquie. Vous voyez qu'on navigue dans les mêmes eaux ou dans les mêmes terres. Là, c'est l'origine du monde, hein. C'est le rêve qui était celui de Lamartine, mais également de Chateaubriand, le rêve d'aller retrouver Jérusalem. C'est le Moyen-Orient, c'est pas l'Orient, hein, c'est le Moyen-Orient seulement. Hein.
Et les auteurs qui étaient sensibles à ça sont justement, qui ont fait le voyage à Jérusalem, comme Chateaubriand, comme Lamartine, et comme Flaubert aussi d'ailleurs. Flaubert aussi est allé. Alors ensuite, donc il y a une. Voltaire n'y est pas allé, mais il était sensible aussi à. Ben, à cela. Si vous regardez en haut vous trouvez Stendhal, Zola, Balzac, Flaubert. C'est les grands romanciers. Ils s'attachent à quoi ? Au bout, tout simplement à la France, à l'Europe, mais plutôt à la Méditerranée. Tout ce que j'ai mis en bleu fait allusion à la Méditerranée. Tandis que si vous passez de l'autre côté, premièrement, ce ne sont plus les mêmes romanciers, ce ne sont plus ceux du 19e, ce sont plutôt ceux du 20e, comme Martin Dugard, comme Gide, exception faite de Maupassant, qui me gêne, ou comme Proust, ou comme Camus, ou même Sartre. Vous voyez, on change d'époque. Et puis également, on se déplace du midi vers le nord. Vers le nord. Les mots que vous voyez là, la Russie, la Belgique, Berlin, je ne vais pas jusqu'à l'extrême là, parce que là, ça change encore. Moscou, l'Amérique, l'Allemagne, on n'est plus tellement dans la Méditerranée. Bon, vous allez me dire, c'est facile à contredire parce qu'il y en a toujours qui font exception. Enfin, la majorité quand même bascule du côté du Nord. Et puis, il y a un phénomène qui se passe ici avec Maupassant, avec Tunis, Maroc et l'Algérie. Et bien, c'est le colonialisme qui. Enfin, c'est les colonies qui sont responsables au moment où on a inventé les colonies et au moment aussi où on s'est retiré. Et ça explique un peu cette agglomération qui se trouve là. Et puis enfin, il y a le bas. Alors le bas, ben, c'est le reste du monde, les pays très éloignés, qui sont fréquentés certes par des gens comme Giraudoux ou Clondel, qui ont été des diplomates, qui dont la vocation était évidemment de parcourir le monde, mais qui ont été surtout visités par l'imagination. C'est là que vous trouvez les poètes. C'est eux qui parlent des pays lointains. C'est eux comme le comte de Lille, comme Baudelaire, comme Charles, comme Aragon, c'est eux qui sont sensibles aux rêves qu'on est allé chercher au début au Moyen-Orient et qu'on va chercher maintenant beaucoup plus loin. Ben voilà, je vais m'arrêter ici, je suis allé trop loin probablement.
Merci beaucoup. Étienne Brunet, ayant attendu 10 ans pour vous rencontrer, je pouvais bien vous accorder 5 minutes de plus.
Tu as triché, hein, c'est vrai qu'il y a un peu de plus.
C'est pas grave.
Je m'en étais aperçu.
Le temps est malgré. Il nous reste tout de même 1 heure avant le déjeuner. Donc je pense qu'on peut consacrer 15-20 minutes aux questions, se reposer une bonne demi-heure. Hein, c'est à 1 heure le déjeuner. Voilà, donc tout va bien. On attend. Madame.
Monsieur Bégagé, avec les mots, je voudrais seulement revenir un petit peu aux chiffres aussi et aux statistiques. Oui. La statistique que vous faites de la place du français sur Internet, autour de 3%, la statistique que nous avons faite dans le rapport du Haut Conseil de la francophonie sur la francophonie dans le monde, où à travers un certain nombre d'études comparatives, on arrive au chiffre de 3,97%, donc plus proche de
2003. Ah, vous êtes plus favorable.
Un peu plus favorable en 2003 sur le nombre de pages en français sur la toile.
Oui. Et est-ce que vos méthodes d'investigation étaient différentes? Alors, pouvez-vous m'expliquer? C'est moi qui vous interroge cette fois-ci.
Tout à fait, mais ce ne sont pas nos méthodes, parce qu'au Conseil de la francophonie, on n'est pas des spécialistes.
Oui, vous voyez, c'était des pourcentages, je faisais que des pourcentages.
On a effectivement confronté des études, alors c'est surtout une association qui s'appelle Fungredef. Je pourrais vous trouver le nom, le déroulé, qui fait un certain nombre de statistiques régulièrement sur la place des langues sur Internet.
Ah, bien.
Et c'est à travers leurs ouvrages qui sont disponibles sur la toile, sur leur site, qu'on a pu constater ça et voir que le français arrivait, par exemple, après l'allemand et l'espagnol.
Eh bien, si vous voulez, vous avez mon adresse internet, vous m'enverrez les références de cette société pour que je sache si j'ai dit des bêtises ou pas.
Je
Ben non, apparemment, vous avez à peu près...
Oui, non, cette présence du français sur Internet est très difficile à déterminer. D'ailleurs, les calculs que tu as faits se basent sur l'appartenance française ou francophone.
Oui.
Mais comment est-elle inscrite dans le document? Comment Google la reconnaît?
Oui,
ce serait discutable.
Justement, oui, j'ai regardé. Normalement, Google se fie au suffixe. Si c'est .fr, vous dites, ça y est, c'est français. Mais si c'est .be, Belgique, .ca, Canada, est-ce que c'est français ou pas? Alors, c'est pas tout. Et d'ailleurs, quand il y a des .fr, je regarde les documents, il y en a qui sont en anglais. Maintenant,
je crois que Google regarde dans le head du document, parce qu'il y a une ligne qui indique la langue. Mais pas forcément.
Mais qui l'indique cette langue? C'est automatique?
Non, c'est le logiciel de création de page qui met un tag automatique.
Mais c'est de voir comment on crée la page.
Voilà,
si l'on fait soi-même le document avec son clavier et on constitue la page HTML, moi j'ai jamais mis ça.
C'est pour ça que je dis que le calcul est aléatoire.
Mais c'est ça. C'est dans mon papier également. Hein, cette mise en veilleuse des résultats, puisque le rapport entre ce qui est francophone et ce qui ne l'est pas dans Google est sujet à caution.
Alkmaar.
Alors, je vous ai présenté, c'était meilleur comme d'habitude, c'était pas la première fois que je vois la chose pareille. Je te remercie, vraiment c'était très intéressant. Mais je me suis rendu compte que tu présentais des données et tu en oubliais d'autres. C'est-à-dire que tu t'es servi de tes connaissances de la littérature française, des œuvres, des auteurs, pour mettre en relief quelques données pour en oublier d'autres. Alors, c'est intéressant peut-être de demander à quelqu'un qui connaît très bien le logiciel, mais pas du tout la littérature française, de bien regarder les données et voir s'ils vont arriver aux mêmes conclusions. C'est-à-dire enlever une connaissance, tu vois, une énorme connaissance, deux œuvres, deux auteurs français, pour voir si c'est une des différences. Je crois qu'il faut souligner le fait que les données elles sont très importantes, bien sûr, mais il faut aussi toujours une maîtrise, une connaissance minimale de littérature. C'est ça, tu fais ça brillamment, mais c'est intéressant quand même de faire une sorte d'expérience de contrôle. Quelqu'un qui ne connaît pas du tout la littérature française connaît très bien le logiciel, de voir ce que ça va donner.
Un vieillard idiot, par exemple.
D'accord.
Oui. Moi, je me méfie tout de même d'un outil ou d'une machine, je n'ose pas faire la distinction absolue entre les deux, qui supposerait un utilisateur complètement ignare et innocent. Je pense qu'il vaut mieux utiliser un outil quand on sait s'en servir et quand on est intelligent. Et cultiver si on peut l'être. C'est pour ça que la statistique, j'aime bien l'employer quand je connais déjà le résultat. Et je n'ose pas trop l'utiliser en première approche pour prouver quelque chose. Et vous savez, on a eu il n'y a pas très longtemps un exemple que j'estime un peu dommageable à propos de Corneille et de Racine. Bon, je ne veux pas en parler maintenant puisque la liste des lutteurs en a parlé beaucoup, mais vouloir à partir de la statistique donner une preuve. Non, pas d'une chose douteuse, mais d'une chose peu vraisemblable, c'est prendre beaucoup de risques.
On va dire en politique, il disait la statistique, c'est comme le bikini. Elle montre tous les caches essentielles.
Oui, il y a Guiraud qui disait aussi la statistique, c'est la science du mensonge. Mais il disait aussi. Que la linguistique était l'exemple type de l'application de la statistique. Et il disait, les statisticiens le savent bien, les linguistes l'ignorent encore. Et si vous regardez bien, parmi toutes les données des sciences humaines, prenez les sciences médicales. Bon, il faut une statistique très fine pour faire la distinction pour un médicament entre les 25 morts qu'on a trouvés et puis les 50 qu'on pouvait espérer, hein, je peux dire. C'est-à-dire, les effectifs ici, les constatations sont vraiment très, très petites. Hein. Vous essayez un médicament, évidemment, si c'est sur les souris, bon, vous aurez des effectifs un peu plus gros, mais si c'est pour constater que tel médicament aboutit au décès et tel autre pas, vous ne pouvez pas faire des expériences très lourdes. Donc, en médecine, on a des petits effectifs, sauf lorsque vous avez des protocoles aux dimensions, une dimension mondiale. En psychologie, c'est la même chose. Tout petits effectifs. En sociologie, alors on a des gros effectifs, sauf quand c'est des sondages. Bon, un sondage qui atteint 1000 sondés, c'est déjà beaucoup. Mais c'est des données pas sûres, parce que le sondeur, bon, quand il a un trou, bon, en cachette, il met une croix, hein, c'est pas très sûr. Puis de toute façon, il y a souvent des lacunes. Et puis les gens que vous interrogez, ils disent quelquefois le contraire de ce qu'ils pensent. Non, la sociologie et les instituts de sondage ont un matériau beaucoup moins riche que le nôtre. Le nôtre, c'est quoi? C'est des mots. Il n'y a pas d'ambiguïté sur la matérialité des mots. Ils sont en nombre infini, encore plus de 1 million. C'est courant, celui sur Europe, ça faisait 65 millions de mots, un seul corpus. C'est énorme. Et on bénéficie dans ces cas-là de la loi du grand nombre. Ensuite, c'est facile à se procurer. Hein, c'est pas très coûteux. Henri s'est pas ruiné à faire ça. S'il était ruiné, il serait pas là. Non, je sais que t'as pas fait de bénéfice, mais par rapport au prix que coûtent les données et dans d'autres matières, c'est bon marché. Ensuite, c'est contrôlable. On peut toujours contrôler. Tandis que dans un sondage, on ne peut pas revenir voir les gens pour savoir s'ils ont vraiment dit ça ou s'ils n'ont pas dit. C'est contrôlable, c'est multipliable. Les résultats peuvent être, non seulement les résultats, mais les données peuvent être multipliées, peuvent être transmises. C'est Guiraud avait raison. C'est l'exemple type, le meilleur exemple de statistique. Mais malheureusement, ni les littéraires, ni les linguistes ne le savent.
Il y a quand même l'ambiguïté de chaque mot. Quand tu mets l'âme sans tête, il y a aussi l'âme du violon.
C'est bien. Mais quand quelqu'un meurt, on n'est pas sûr que c'est à cause du médicament ou malgré le médicament. Non, non. Là aussi, il y a beaucoup d'incertitudes dans le résultat.
Je crois qu'Étienne parlait de la matérialité des mots, pas
du... Oui, j'ai dit matérialité.
Non, il a dit à un moment, mais c'est pas ambigu. Mais justement, les mots sont ambigus.
Après, les mots sont ambigus.
Pas la matérialité.
Il y avait Thomas.
Oui, il faut des tripes à la de camp.
Thomas, ouais, moi j'étais très intéressé par l'étude de ville, là, parce que je crois que quand on cite sur Internet des noms de villes, souvent il y a des citations des livres, et donc New York, London arrive très souvent parce qu'il y a des livres publiés là-bas, et les villes de Montréal et Genève, je ne sais pas, parce que ce sont des villes avec un accent, mais où il y a des grandes maisons d'édition, je ne sais pas si ces villes-là apparaissent, mais mon problème, je ne sais pas si vous avez interrogé aussi Italia avec le A ou Espagne avec ou sans tilde pour mettre ces villes-là, mais...
Non, je réponds aussi, non, je n'ai pris que des noms qui n'avaient qu'une seule écriture... anglo-saxon.
D'accord. Mais le web français, j'ai du mal avec ce terme-là parce que, de toute façon, comme le chinois est la langue la plus parlée sur la planète, je vois que le hindi et le portugais dévancent beaucoup de ces autres langues par les locuteurs. Le français, quand même, est français dans la notion de France. C'est vraiment la France est minoritaire dans ce monde-là parce que. La ville qui s'approche de Paris en population, c'est Kinshasa avec 9 millions qui dévance de loin des villes comme Marseille ou de Dakar ou de Montréal. Et si on pense vraiment, vous êtes, c'est juste une remarque pour les chiffres là, nous sommes dans une sorte d'élite, quoi. Ceux qui ont l'internet et même les textes, c'est les lettrés. C'est-à-dire quand on parle des francophones, il faudrait penser aussi à Abidjan, qui est une ville beaucoup plus grande que Marseille, par exemple. Ou, comme en anglais, on parle à Lagos, et Lagos, on dit qu'on parle anglais, mais c'est un anglais créolisé, un anglais comme parfois on ne dit pas quoi. Mais
L'internet, c'est quand même, ce sont des chiffres, mais c'est quand même simple dans des chiffres de sorte d'élite.
Mais c'était bien pour montrer que ça ne représentait non pas l'importance de la population, non pas l'importance économique des choses ou des villes, ça représentait l'importance de l'écho suscité dans les consciences.
C'est des images.
C'est de la notoriété. Voilà. Un peu comme nos collègues américains sont jugés d'après le nombre de citations qu'ils ont dans Internet ou dans les revues. Le nombre de citations, c'est une mesure de la notoriété. Évidemment, il peut y avoir des effets pervers. Hein, une bande de copains qui se mettent à se citer les uns les autres. À tort la rigueur.
Je vais venir à mon congrès parce que j'ai besoin d'une pièce.
Mais enfin, c'est une mesure de la notoriété. Et la notoriété dépend non seulement du poids économique, mais dépend également du passé culturel. C'est pour ça que je parlais d'exception culturelle. En détournant un peu l'expression de son sens gouvernemental qu'il peut avoir.
Je voudrais savoir de manière plus générale, Étienne, s'il est envisageable de faire les études que tu nous as montrées sur Frontex, de les faire sur le web, avec Google. Parce que, au fond, il y avait juxtaposition dans ton exposé entre quelques essais de lexicométrie avec Google. Donc sur les villes, par exemple, avec toutes les précautions qu'il faut prendre. Effectivement, j'ai regardé tout à l'heure, tu parlais de Paris, mais une bonne partie à l'heure actuelle des occurrences de Paris, c'est la Starlet Paris Hilton qui les fournit. Non, mais c'est aussi les risques de... je ne parle pas de Paris-Texas ou de choses de ce genre-là. Mais même chose pour quand tu mesures London... il faudrait aussi le comparer avec les appellations de Londres dans d'autres langues.
Non, c'était qu'une comparaison entre le français et l'anglais.
Oui, voilà, c'est toujours cette difficulté. Mais est-ce qu'il est possible d'aller plus loin, c'est-à-dire d'envisager des études un peu comme celles que tu as faites à partir de Frontex, plus fines? Par exemple, un peu comme ce que nous a présenté Patrick Rébollard sur des écrivains, sur des appellations d'écrivains ou sur des... et qui permettrait de savoir peut-être par zone géographique ou par zone linguistique quels sont les concepts les plus utilisés. Enfin, est-ce que tu envisages la possibilité de faire ça?
Je connais un logiciel qui fait ça, qui pompe, à propos, on lance un mot et puis le résultat est confronté un dictionnaire de référence sans doute pour montrer que le mot qu'on utilise est associé avec tel ou tel mot. Et seulement c'est assez décevant ça, parce que si on prend Internet sans crier quoi que ce soit, on obtient des choses épouvantables. Et si je demande, je sais pas, le mot béard, j'en sais rien, je te prends comme victime. C'est pas un mot. On peut estimer que c'est un assemblage de lettres, moi j'appelle ça un mot, et je pourrais... Moi, c'est comme si un assemblage de chair et d'os, assez bien proportionné, mais... c'est aussi un mot. Et je ne sais pas trop ce que je vais obtenir. Peut-être un ensemble de textes qui sont sous ta plume, de ta plume, mais aussi probablement des tas de béards, de ceux qui se préoccupent de leur arbre généalogique, et ça pourrit l'Internet, et c'est ça ce qu'on obtient toujours. Hein. Cherchez votre nom sur Internet, vous allez voir que vous avez des tas d'homonymes, et...
Pardon, que c'est le syndrome...
Sauf si vous avez des noms très spéciaux, mais... Si vous vous appeliez Brunet, vous verriez. Hein. Donc il y a de la généalogie qui vient là, qui brouille tout.
Yvan Leclerc.
Oui, je voulais vous interroger sur la représentation graphique, la mise en espace sous forme d'arbre ou de constellation des résultats.
Oui.
Quand vous sortez une liste d'occurrences, là c'est la machine qui travaille seule, quand vous sortez un graphique, est-ce qu'il y a une intervention de votre part qui crée un certain nombre de voisinages?
Ah ben, je vais vous dire jusqu'où je vais avoir la liberté.
Parce qu'on a éteint le projecteur.
Non. Ah oui, bon, c'est bon. Bon, lorsque vous avez une analyse factorielle, c'est la machine qui pose chacun des mots, chacune des colonnes en réalité, et chacune des lignes. Simplement, il n'y a comme ça des recouvrements. Alors, pour y voir clair, on a le droit, c'est moi qui ai donné au logiciel la possibilité de déplacer un peu. Mais pour empêcher qu'on dise des bêtises et que surtout qu'on soit menteur, j'empêche que le déplacement dépasse une question de millimètres. Hein. C'est tout. C'est tout. Le logiciel vous empêche de mentir. De la même façon, quand il y a une analyse factorielle, vous voyez très bien qu'il y a des chemins en rouge ou en bleu. Chaque point peut pivoter autour de son axe, hein, puisque la distance reste la même. Quand vous faisiez ça ou ça, vous tournez tout autour, la distance est la même. Vous pouvez le faire, donc ça permet d'empêcher les recouvrements. Mais là aussi, vous ne pouvez pas allonger la distance, vous ne pouvez pas déplacer un nœud, non.
Étienne, il faut peut-être que tu précises que les cercles, en revanche, sont tracés à la...
Oui, je crois l'avoir dit. Quand je mets une constellation avec un beau cercle autour, c'est déjà, ça c'est de l'interprétation. Et quand je mets un commentaire en disant ça, c'est le roman réaliste, c'est moi qui ai posé cette étiquette.
L'effet de liaison, c'est vous qui l'avez fait aussi, comme dans les dessins où il s'agit de relier un certain nombre de points pour faire apparaître une figure, les traits de liaison, c'est plus que les faits.
Il n'y en a eu aucun dans ce que je vous ai montré, mais c'est vrai, quelquefois, au lieu de faire un ovale, pour montrer non pas que deux points sont l'un à côté de l'autre, parce qu'en ce moment on est dans un cercle, mais pour montrer qu'ils sont éloignés, c'est plutôt un trait que l'on met à ce moment-là, pour dire non, là il y a quelque chose.
Dans l'analyse arborée, les traits
arborés,
c'est différent.
Ah, parce que ce sont des traits, oui, dans l'analyse arborée, ils sont posés. On peut les faire tourner autour de leur axe, mais c'est tout.
Est-ce que je peux vous demander...
Excusez-moi.
Monsieur Gondiac.
Non, je veux vous poser une question très importante, impertinente.
Oui.
Cet énorme travail, est-ce que ça vous a appris quoi que ce soit sur qui que ce soit? C'est un travail énorme. Et au total...
C'est la meilleure question qu'on pouvait me poser.
Tout ça, c'est des choses qu'on savait déjà. Non. Est-ce que vous avez appris vraiment du nouveau avec ça? Alors, ça a transformé radicalement, même substantiellement, un certain nombre des notions que vous aviez déjà.
Alors, je vous répondais tout à l'heure que j'invitais les gens qui font de la statistique à demander si à ne pas s'aventurer dans des terrains qu'ils ne connaissent pas. Donc, ça va dans le sens que vous dites. Maintenant, tout de même, il y a deux façons de travailler.
Ma question est insolente, n'est-ce pas?
Il y a deux.
La réponse
n'était pas insolente.
Il y a deux façons de travailler quand on est un chercheur. Ou bien, on a une hypothèse au départ. On ne sait pas, mais on a une hypothèse et on voudrait la confirmer. L'ordinateur, avec ses chiffres, peut infirmer ou confirmer la présomption que vous aviez dans la tête. C'est la façon la plus normale de travailler. Mais il y en a une autre qui n'est pas incompatible avec la première. Supposons que la première façon vous ait non pas donné le résultat attendu, mais un autre. Ah, il vous a lancé dans une autre voie. Et il y a donc une herméneutique avec cette méthode de statistique, parce qu'elle vous fait découvrir des choses que vous n'attendiez pas, au contraire, vous en entendiez d'autres. Ou bien vous n'avez absolument aucune idée préconçue sur un phénomène qui apparaît. Et c'est à ce moment-là que, de nouveau, ce phénomène que vous voyez vous sert d'hypothèse et vous faites d'autres expériences pour voir si ça se confirme. Et de proche en proche, ce qui était inattendu, hasardeux, eh bien, devient un nouveau sujet de recherche. Et vous savez, les scientifiques, hein, ils ont eu ça eux aussi. Quand Roentgen a découvert dans son tiroir qu'une plaque de photographie avait fait une image, il s'est dit, mais ça, qu'est-ce que c'est que ce truc-là?
Non, mais je voulais dire, j'ai été quand même assez frappé que beaucoup de vos commentaires, c'était... Évidemment, on trouve celui-ci ici, plutôt... Mais il n'y a pas de grande surprise. Ça n'apprend pas grand-chose de nouveau. la situation.
Quand il y a confirmation d'évidence, ça prouve que le logiciel ne s'est pas trompé. Mais à partir de là, quand il vous montre quelque chose qui n'est pas là où on l'attendait, par exemple Flaubert n'était pas du tout là où je l'attendais.
Oui, j'aurais aimé. C'est pas du tout un reproche, bien sûr. Mais ça m'aurait bien intéressé que ça s'arrête à ce moment-là et qu'on me dise, ben oui, il n'y avait pas trop, mais il n'est pas où il devrait être. Et pourquoi?
Mais je l'ai dit, je l'ai dit. Et j'ai dit que ça venait du fait qu'il y avait deux Flaubert. Le Flaubert de la correspondance, vous l'avez lu probablement, c'est presque celui que je préfère, et puis celui de la trilogie Éducation sentimentale, Madame Bovary, et Bouvard et Pécuchet.
Non, excusez-moi, parce qu'effectivement, maintenant je me rappelle que vous vous êtes arrêté un peu là-dessus. Enfin, il y avait tellement de choses.
Mais voilà, je me trouve devant un public qui n'est pas forcément acquis à la statistique. Et au lieu de montrer des choses douteuses, un univers de brouillard, j'ai préféré montrer des choses qui étaient assez évidentes et qui correspondaient à leurs sentiments. Bon, j'ai peut-être été un peu trop démagogue.
Non, mais il faut peut-être ajouter que tu connais le corpus. Tu sais comment est constitué le corpus, et c'est normal, quoi. On ne peut pas travailler de la statistique sur des populations complètement inconnues. On sait déjà, au fond, les limites, soit du territoire, soit du département, et là, en l'occurrence, on connaît les genres, puisqu'on a posé à l'avance qu'il y avait des genres littéraires. Alors évidemment, il y a confirmation, c'est ça un petit peu l'ambiguïté.
Exemple de surprise, quand j'ai demandé la ville de Caen, j'avais aucune envie de faire rire sur la ville de Caen. Moi je pensais qu'on allait parler du bombardement, moi j'ai vu Caen en 45. C'était complètement rasé. Alors voilà ce que j'attendais quelque chose comme ça, rien du tout, les tripes à la mode de Caen. Surprise. Évidemment, c'est pas un grand résultat scientifique, mais c'est pour vous dire qu'on n'a pas toujours ni ce qu'on cherche, ni ce qu'on suppose.
Excusez-moi, étant proustienne, le problème des périphrases pose un certain problème à la statistique. Parce que pour vous donner un exemple peut-être marginal, je me suis intéressée à un moment, d'ailleurs pas toute seule, à la scatologie chez Proust. Les mots strictement scatologiques sont très réduits. On peut dire évidemment, un auteur comme Proust ne parle pas de ces choses-là, c'est pas cela, etc. Mais en fait, si on sait décrypter les périphrases, il en est énormément question. Oui. Seulement, c'est la petite pièce sans tendiris. Il faut savoir que ça désigne les cabinets. Le pavillon des Champs-Élysées, c'est pareil, c'est les toilettes publiques. Et si on ne décrypte pas les périphrases, on a l'impression qu'il n'en est presque jamais question.
Et dans les carnets, c'est encore beaucoup plus net, je veux dire, que quand ça a été expurgé. Hein, et moi j'ai fait aussi un bouquin sur Proust. J'ai vu la façon dont la rédaction finale atténue, rend les choses par des périphrases, vous avez parfaitement raison. Par exemple, le mot de Cambronne, il est dans Proust, mais il est enveloppé. Et derrière cette périphrase, c'est Madame de. Enfin, c'est dans le salon là, que ça se passe. Et en parlant de Zola. Et on dit de lui que il est ce qui porte bonheur. Voilà. Le mot de Cambronne, c'est ce qui porte bonheur quand on marche dedans. Hein, c'est comme ça, dans ces périphrases, qu'on arrive à trouver le mot de Cambronne.
Le nom de Cambrevert, un nom qui commence assez mal et qui ne finit pas mieux, mais qui s'arrête juste à temps.
Voilà, il y a un autre exemple. Donc il y a plein de plaisanteries chez Proust, effectivement, qui sont enveloppées dans des périphrases. Alors vous me posez la question, effectivement, ces finesses-là échappent à l'ordinateur qui lui patauge dans le bout de Cambronne. Hein.
Oui, donc est-ce qu'il n'y a pas des auteurs qui sont plus appropriés à la recherche lexicométrique que d'autres?
Oui, mais tout de même, lorsqu'on s'aperçoit un mot comme temps, et l'un de ceux que la machine met en relief, et quand on voit que Proust finit avec ce mot-là, et qu'il commence d'ailleurs avec ce mot-là, longtemps je me suis levé de bonheur, on voit tout de même bien qu'il est difficile à un auteur de cacher ce qui fait sa hantise permanente.
Oui,
hein, que c'est comme le mot art. Donc malgré ce qu'on peut dire sur l'ambiguïté du langage, par exemple, si vous avez le verbe accepter, vous dire oh, le langage positif, mais s'il y a une négation devant, je n'accepte pas, c'est tout le contraire. Or, on ne fait pas attention à l'assemblage des mots. Hein, très dangereux de prendre le mot refuser, de prendre le mot accepter comme l'image négative ou positive. Ça dépend s'il y a une négation ou pas. Hein. Mais enfin, le fait que quelqu'un dise jalousie, jaloux, l'emploi sans cesse à propos d'Albertine, c'est tout de même un thème, ça développe un thème. Je sais que les psychanalystes me disent, oh mais non, ce qui est important, c'est ce qui est caché, c'est les mots qu'on ne voit pas, c'est les mots qui sont interdits, qui sont ostracisés, qui sont refoulés. Ah. Au niveau de l'œuvre, de tout un écrivain, c'est difficile de soutenir cette théorie-là.
Non, Thomas, avec les spécificités, on montre bien que dans tel chapitre ou dans tel deux, les mots ne sont pas prononcés. Ça aussi, ça s'appuie dessus. C'est toujours un système statistique qui montre bien les absences remarquables.
Oui, mais les absences, est-ce que c'est les mots refoulés?
Non.
Ça, je ne sais pas sûr.
Je ne parle pas d'esprit, c'est intéressant. Oui. Voilà, ça, c'est là. Voilà quelques-unes des remarques que j'ai faites en regardant ce texte. Il y aurait une étude à faire là-dessus. Pourquoi est-ce que tu ne parles pas d'esprit?
Par d'armes, mais pas d'esprit.
Parce qu'on n'a pas été visité.
Alors là, ça pose un problème de corpus, parce que si vous entrez systématiquement les correspondances des écrivains, le vocabulaire va être complètement changé.
Oui, mais.
Quand on fait la correspondance de cours, il y a une question d'argent, de maladie, etc.
C'est ça, je vais faire ça avec Rimbaud. Oui. Alors, le Rimbaud de la correspondance est affreusement utilitaire, une question que l'argent. C'est horrible. Il ne faut surtout pas mélanger.
La correspondance privée de Proust, qui est une obscénité.
Enfin, quand même, Proust a toujours plus ou moins son langage. Bon, alors, Rimbaud.
Flaubert aussi.
Et Flaubert. Et Flaubert. Mais tous, plus ou moins. La correspondance de Hugo. Au début, oui, c'est intéressant. Mais la dernière correspondance de Hugo, mais c'est les relations avec les écrivains belges, les protestations contre les virgules belges. La correspondance de Hugo, les histoires d'argent, bon, il connaissait très bien la manière dont on protégeait ses intérêts. Mais sa correspondance, au moins dans les dernières années, c'est ça. Bon, sans grand intérêt.
D'autres questions? Ces problèmes de statistiques soulèvent évidemment d'énormes problématiques déjà depuis des dizaines d'années, donc c'est pas nouveau aujourd'hui. Je rappelle tout de même qu'il y a toujours la possibilité de sélectionner les corpus sur lesquels on travaille, donc de faire des travaux différenciés sur des corpus maximum ou limités à certains genres ou à certaines époques, et il faut multiplier les travaux pour comparer les résultats de recherche sur des corpus, de façon à limiter les erreurs. Bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, bien sûr, on peut discuter avec Étienne avant son départ, qui est très, très proche. J'en profite pour le remercier de m'avoir rappelé à mon travail, qui était de signaler l'arrivée d'Yvan Leclerc et de Madame Girard, qui sont arrivés hier soir, et qui n'ont donc pas été présentés à tout le monde, mais je crois que ça a déjà été fait. J'en profite pour dire que Jean-Marie Villepret devrait arriver dans l'après-midi et on a modifié un tout petit peu le programme, comme vous le verrez sans doute sur le tableau, pour demain.